à Mélé Mélo, l'émission qui travaille du cibolo, qui s'agite les neurones, qui se creuse les méninges.
Mélé Mélo, l'émission qui se mêle de tout, qui s'intéresse à tout.
La seule émission qui peut interviewer tous les personnages du passé, du présent et du futur.
Des questions, on en a plein le cartable. Voilà pourquoi dans Mélé Mélo, on se pose des questions. On vous pose des questions.
Bienvenue dans notre première émission culturelle consacrée aujourd'hui aux Gaulois. L'émission vous est présentée par Lilou, Noam, Ilan, Mélisse, Hippolyte, Sarah, Maëlane et Johan.
Pour cela, nous avons immédiatement pensé à une personne, Vercingétorix. Lui seul pouvait nous parler de ce peuple si peu connu.
En effet, nous avons encore beaucoup de choses à apprendre sur ces tribus gauloises car malheureusement, ils ne savaient pas écrire. Nous n'avons donc aucune trace écrite sur leur civilisation.
Heureusement, nous avons la chance d'accueillir sur le plateau M. Vercingétorix en personne. Il a fait un voyage de 2000 ans exprès pour nous et nous tenons à le remercier. Alors, sans transition, commençons par l'interview du jour.
Alors, M. Vercingétorix, comment vous sentez-vous après ce voyage dans le temps ?
Bonjour mon petit. Alors, je me sens un peu rouillé et poussiéreux car cela fait 2000 ans que je ne bouge pas. Mais je suis très heureux car je constate que la Gaule est devenue une grande nation. Peut-être grâce à moi, je découvre également des tas de nouvelles choses qui n'existaient pas à mon époque, comme le téléphone portable qui m'aurait rendu un grand service pour communiquer avec les autres tribus gauloises, ou bien cette chose que vous appelez voiture qui va tellement vite et qui est si confortable.
Nous avons beaucoup de questions à vous poser. La première est, comment êtes-vous arrivé sur ce territoire ?
C'est une très bonne question. En fait, on ne sait pas vraiment, mais des tribus préhistoriques sont arrivées environ 800 ans avant Jésus-Christ par l'est de l'Europe et se sont installées peu à peu sur les territoires qui correspondent de nos jours à la France, la Belgique, la Suisse et une partie de l'Allemagne. Ces tribus communiquaient entre elles et fonctionnaient de la même manière. Elles avaient les mêmes cultures.
Peut-on dire qu'ils appartenaient à la même civilisation ?
Oui, même si chaque tribu avait son chef et parfois un langage différent, nous avions les mêmes coutumes, les mêmes connaissances et les mêmes croyances.
Justement, comment était organisée votre société ?
Dans notre société, il y avait les guerriers, les druides et les peuples. Les guerriers et les druides contrôlaient tout et prenaient toutes les décisions. Les gens du peuple, comme les artisans et les paysans, avaient très peu de liberté.
Pouvez-vous m'en dire plus ?
C'est très simple. Les guerriers dont je faisais partie s'occupaient de protéger et d'attaquer d'autres tribus. Chaque guerrier, selon sa richesse, pouvait rassembler un nombre plus ou moins grand de compagnons. Un guerrier avait beaucoup de pouvoir, car il savait se battre et défendre en cas de besoin.
Les druides aussi avaient beaucoup de pouvoir, car ils savaient beaucoup de choses. Ce sont eux qui soignaient, qui réglaient les problèmes entre les personnes, qui s'occupaient des affaires religieuses. Ils s'occupaient même d'éduquer les jeunes. Leur pouvoir était presque plus grand que le chef de la tribu.
Est-il vrai qu'ils fabriquaient une potion capable de décupler votre force ?
Malheureusement non. Sinon je l'aurais utilisée pour me battre contre Jules César.
Et les gens du peuple, alors que faisaient-ils ?
Eh bien, ils étaient beaucoup plus nombreux. Il y avait des artisans et des paysans. On ne leur demandait jamais leur avis. Ils travaillaient tout le temps. Nous les considérions presque comme des esclaves. Mais maintenant que j'ai 2000 ans, je me rends compte qu'ils étaient fantastiques, ces gens-là.
Pourquoi ?
Eh bien, figurez-vous que nos artisans fabriquaient des bijoux magnifiques en métaux précieux comme l'or et l'argent. Les tisserands réalisaient des tissus aux plus belles couleurs. D'autres artisans fabriquaient de la poterie pour conserver le vin, la cervoise, l'huile et les grains.
Nos forgerons étaient très réputés et fabriquaient de nombreux objets en bronze ou en métal, comme des armes. Ils ont même inventé un appareil qui servait à couper le blé et à récupérer les épis dans un coffre. Je crois que vous appelez cette machine une moissonneuse.
Mais ce n'est pas tout. Ils ont aussi inventé le tonneau pour conserver le vin, la charrue pour retourner la terre, le moulin à blé, la roue cerclée de fer.
Est-ce que vous vendiez tous ces objets ?
Au début, nous faisons du troc. On échangeait nos objets contre de la nourriture ou bien d'autres objets de même valeur. Puis la monnaie est apparue. C'était plus pratique car nous n'étions plus obligés de transporter plein d'objets à échanger. On pouvait acheter sans avoir quelque chose à vendre.
Et les femmes dans tout ça, que faisaient-elles ?
Chez nous, les femmes avaient presque les mêmes droits que les hommes et elles exerçaient les mêmes activités, mais elles ne pouvaient pas être druides.
Justement, au sujet des druides, pouvez-vous nous en parler de votre religion ?
Notre religion, comme la plupart des civilisations de l'Antiquité, était polythéiste. Nous croyons en l'existence de plusieurs dieux et déesses. Par exemple, Taranis était le grand dieu du ciel. Toutatis était le dieu de la guerre qui protégeait nos tribus. Cernunnos était le dieu de la végétation. C'est lui qui réveillait la nature au printemps. Epona était la déesse des chevaux et des cavaliers.
Est-ce que vous représentiez vos dieux par des sculptures ou des dessins ?
Oui, bien sûr, ils étaient représentés sur les objets courants comme des poteries, chaudrons, sur nos armes ou sur nos outils. Nous avons aussi sculpté de nombreuses représentations sur du métal ou de la roche.
Il nous reste peu de temps, Vercingétorix, car je sais que vous êtes fatigué et un long voyage vous attend. Cependant, pouvez-vous nous dire pourquoi Jules César a envahi les Gaules ?
C'est simple, nous avions une réputation d'excellents agriculteurs et artisans. Nous étions assez riches et en plus nos régions intéressaient Rome car le climat à la fois humide et assez chaud permettait d'obtenir de bonnes récoltes.
Avant de continuer, nous vous proposons d'écouter une petite pause musicale.
De Vercingétorix. Alors, Vercingétorix, puisque vous étiez de bons guerriers, pourquoi les Romains vous ont-ils battu ?
Parce que nous n'étions pas unis. Rappelle-toi, il y avait beaucoup de tribus gauloises, mais chaque tribu était indépendante. Parfois même, on se battait entre nous. Rome était très unifiée et organisée, avec une vraie armée de métiers. J'ai bien essayé de convaincre plusieurs peuples de prendre les armes pour lutter. J'ai convoqué des chefs gaulois. Nous avons combattu pendant 6 ans et Jules César en personne a dû venir se battre.
Comment ça a terminé ?
Comme tu le sais, nous attaquions en ordre dispersé. Les légionnaires romains, même moins nombreux que nous, étaient très bien organisés et entraînés. Ils nous ont poursuivis et encerclés jusqu'à Alésia, où nous nous sommes réfugiés. Jules César nous a alors assiégés.
Comment ?
Il a construit 2 fortifications autour de la ville. La première pour nous empêcher de sortir de la ville et une autre pour se protéger des attaques d'éventuels renforts. Ces Romains étaient vraiment trop forts et trop malins. Comme nous avions trop faim, nous avons fini par nous rendre sans aucun combat.
Et ensuite, que s'est-il passé?
On m'a amené à Rome pour m'emprisonner. C'est là que je suis mort 6 ans plus tard. J'avais 34 ans. Pendant ce temps, toute la Gaule a pris les habitudes de vie des Romains et les Gaulois sont devenus gallo-romains. Ils ont appris le latin et plus tard, une religion nouvelle avec un seul dieu est apparue. On m'a raconté que 500 ans plus tard, les Romains ont été eux aussi envahis par d'autres tribus venant de l'Est, mais je ne connais pas très bien les détails.
Je vous remercie, Vercingétorix, d'être venu jusqu'à nous pour répondre à nos questions. Nous allons vous laisser partir, mais d'abord, dites-nous quelle chanson voudriez-vous écouter.
Surtout, je ne veux pas cette chanson qui dit « Nos ancêtres, les Gaulois, cheveux blonds et tête de bois ». Je voudrais entendre ces musiques curieuses que vous écoutez et qui font un bruit de tonnerre grâce à des amplificateurs de son. Je vous laisse choisir. Au revoir, les enfants, et merci de m'avoir reçu.
Merci à vous, Monsieur Vercingétorix. Je vous propose d'écouter Yellow Submarine des Beatles, un grand groupe anglo-saxon, pour vous accompagner dans votre voyage. Restez avec nous pour la suite de Méli-Mélo.
In the town where I was born, lived a man who said to see, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed to the sun till we found a sea of green.
Dans Méli-Mélo, voici la chronique culturelle avec l'œuvre du jour.
Bonjour à toutes et à tous. Dans chaque émission, nous vous proposerons d'écouter une œuvre artistique. Alors fermez les yeux et imaginez, en espérant qu'après cela, vous vous précipiterez sur Internet pour regarder ce majestueux tableau que vous avez tous aperçu dans un livre d'histoire.
Aujourd'hui, nous avons choisi un tableau qui s'appelle « Vercingétorix jette ses armes aux pieds de César ».
Ce tableau se trouve au musée de Crozatier du Puy-en-Velay. Il est très grand. Il mesure presque 5 mètres de long et plus de 3 mètres de haut.
Il a été peint par Lionel Royer en 1899 alors que Vercingétorix s'est rendu aux Romains en 52 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire 1800 ans après l'événement.
Le tableau est divisé en deux, comme une balance. Les Gaulois à gauche et les Romains à droite.
Notre regard est attiré par la moitié gauche où on voit au premier plan un homme seul sur un cheval blanc. C'est Vercingétorix. Il a l'air fier et courageux. Son regard est droit. Ses deux bras sont tendus vers le bas à droite, comme s'il montrait quelque chose au sol.
Son cheval est très beau. Les pattes de devant sont en train de freiner et on voit que la poussière qui s'élève des sabots arrière. On dirait qu'il vient de s'arrêter parce qu'on voit du mouvement au niveau des pattes, de la tête et de la queue.
En arrière-plan, toujours sur la moitié gauche, on voit des remparts et de la fumée comme s'il y avait eu un incendie. C'est certainement Alésia saccagée par les Romains.
Sur la moitié droite du tableau, les personnages sont plus nombreux. On voit d'abord un homme assis sur un trône avec une toge rouge et une couronne de laurier sur la tête. C'est Jules César. Tout autour de lui, il y a des soldats romains et en arrière-plan, on voit de nombreuses barrières romaines.
Les Romains à droite tiennent un prisonnier agenouillé au sol. Il est torse nu et attaché.
Par terre, entre Vercingétorix et les Gaulois agenouillés, il y a des armes et un bouclier gaulois.
Tous les personnages du tableau ont le regard dirigé vers Vercingétorix sur son cheval. Ainsi, notre regard revient toujours sur Vercingétorix.
Ce tableau est comme une balance en équilibre. Vercingétorix seul à gauche pèse autant que les nombreux Romains à droite. Il est placé plus haut que Jules César qui pourtant l'a battu. En plus, tous les regards sont dirigés vers lui, ce qui lui donne encore plus d'importance.
Mais alors, qu'a voulu exprimer le peintre ?
Lorsque le peintre a fait ce tableau en 1800 ans, après la défaite de Vercingétorix, la France est alors en plein conflit contre l'Allemagne, car en 1870, elle a gagné une guerre et après l'Alsace et à Lorraine à la France.
La France veut sa revanche et se cherche des héros pour symboliser la résistance à l'envahisseur et unifier le pays.
Vercingétorix est le héros parfait qui symbolise l'unification, le courage et la résistance contre l'ennemi.
C'est pour cela que le peintre représente Vercingétorix comme la France de 1870. Il a perdu et pourtant il est encore fier, courageux et il tient tête à l'ennemi.
Eh bien, merci pour cette présentation. J'espère que nos auditeurs regarderont ce tableau d'un autre œil.
L'émission est maintenant terminée. À la technique, il y avait Emma et Nathanaël. Nous vous remercions de nous avoir écoutés et nous vous disons à bientôt pour le prochain Méli-Mélo.